Nous allons lire aujourd'hui dans l'Évangile de Matthieu un texte que nous connaissons tous très bien. Nous le lirons dans le chapitre 20. Et nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Mais je voudrais d'abord qu'on se recueille et que pour demander l'aide du Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole. Et nous voulons te demander, Seigneur, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour la recevoir et pour la transformer d'une façon qui te glorifiera. Seigneur, viens-moi en aide parce que je sais que les capacités ne sont pas en moi. Je te remercie pour le secours de ton esprit et pour la prière de mes frères et sœurs. Amen. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » ?»« Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Il leur répondit, « Vous boirez en effet ma coupe, et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais, quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Nous avons déjà entendu sûrement beaucoup de fois prêcher sur ce passage. Je voudrais que nous fassions un peu plus ample connaissance avec la famille de Zébédée, puisqu'il est question ici des fils de Zébédée. D'après l'évangile de Matthieu et même d'après les autres évangiles, nous savons que Zébédée, il était le père des apôtres Jacques et Jean. Nous savons aussi que Zébédée, c'était un pêcheur du lac ou de la mer de Galilée. Et on peut déduire, ce n'est pas écrit textuellement, mais on peut déduire que Zébédée pouvait être un homme plutôt aisé, parce que il travaillait non seulement avec ses fils, mais quand ses fils ont été appelés, eh bien, ils ont laissé Zébédée avec les ouvriers dans la barque. Donc, on peut dire que c'était une PME, hein. Et s'il y avait à ce temps-là des écriteaux, il aurait peut-être été écrit pêcherie, Zébédée et fils. On peut déduire aussi, ce n'est pas écrit textuellement non plus, que Zébédée pouvait avoir plusieurs barques. mais on peut le déduire. Ce n'est pas écrit non plus, mais quand le Seigneur a appelé Jacques et Jean, Zébédée ne s'est pas opposé. On ne sait pas ce qu'il a dit, on ne s'est pas dit s'il a dit oui, s'il a dit non, mais en tout cas ce n'est pas rapporté qu'il s'est opposé. Quelque chose que nous ne savons pas, moi je ne le savais pas, c'est quelque chose qu'on peut déduire aussi quand on compare les textes. À la fin des évangiles, quand on met en parallèle les textes qui racontent le pied de la croix et la résurrection, le lendemain de la résurrection, le jour de la résurrection, on peut comprendre que la dame que l'on appelle Salomé, que c'était l'épouse de Zébédée, donc la maman des apôtres Jacques et Jean. Donc ici, j'ai noté un certain nombre de références qui m'ont permis de faire ces déductions-là. Voilà pour la famille Zébédée. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est dans le verset 21, comment maman Salomé en est arrivée à faire cette demande plutôt au Seigneur Jésus quand elle a dit « Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Comment est-ce que ça lui est venu à l'idée de formuler cette demande? Et ici je vais broder, mais peut-être bien que ça aurait pu se passer comme cela. Si nous regardons au chapitre précédent, un autre épisode que nous connaissons très bien aussi, cet épisode que l'on appelle le jeune homme riche, qui était venu devant Jésus, auprès de Jésus, et qui avait dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et nous savons que le Seigneur lui a cité un certain nombre de commandements. Le jeune homme riche lui a dit « Mais Seigneur, moi j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. » Et le Seigneur lui a dit « Ben, il te manque une chose, vous savez, va, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres. » Mais il est écrit qu'il était très riche et que ça lui est tombé dessus et que aller plus loin, ça ne l'intéressait pas. Alors, je vais essayer de le raconter comme si c'était Jacques et Jean qui racontaient leur journée à leur maman. Qui c'est, maman, hein? Aujourd'hui, il s'est passé ceci avec le jeune homme riche, et il a demandé ceci, et le Seigneur lui a répondu cela. Et après ça, ben le Seigneur, il a dit, pour les riches, maman, ce sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous, on lui a demandé, ben Seigneur, nous, on a tout abandonné pour toi. Tu sais bien quand tu nous as appelés. Qu'est-ce qui va se passer avec nous qui avons tout abandonné? Lui, il n'a rien voulu lâcher, le jeune homme riche. Mais nous, on a tout abandonné. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, les belles paroles. Les belles paroles du Seigneur. Vous ne serez pas perdants. Quand le moment du royaume arrivera, eh bien, vous serez assis sur 12 trônes avec moi et vous jugerez les nations. Ah, ça c'était une bonne nouvelle. Maman Salomé, qui ne voyait que du bien et du bon pour ses fils, elle apprend que voilà, ils vont siéger sur 12 trônes aux côtés du Seigneur. Et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce n'est pas maman Salomé n'était pas sourde. Elle a bien retenu cela. Alors, si nous revenons au texte que nous avons lu, pendant qu'il montait à Jérusalem, pendant qu'il montait à la capitale, Peut-être que Salomé s'est dit, ah, maintenant, c'est peut-être le moment où il va devenir roi et où on va distribuer les places et où on va distribuer les rôles. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a dit, ordonne que dans ton royaume, mes deux fils, que voici, soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Mais le Seigneur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, les choses ne se passent pas comme ça. Peut-être dans le gouvernement du monde, oui. Mais ça ne se passe pas, par exemple, comme ce qu'on a vécu dans les inscriptions pour l'enseignement secondaire. Premier arrivé, premier inscrit. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Mais ça a été comme ça. Et ce n'est pas parce que Jacques et Jean ont été les premiers à demander qu'automatiquement, ils vont avoir les premières places. Non, dans le royaume des cieux, ce n'est pas comme cela. Le piston, ça ne marche pas non plus dans le royaume de Dieu. Il y aura bien sûr une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Mais comment cette hiérarchie-là s'établit-elle? Eh bien, nous l'avons lu à la fin de notre texte. Et nous pouvons relire la deuxième partie du verset 26 où le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Dans le royaume de Dieu, le moyen pour être grand, c'est d'être serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le Seigneur Jésus indique le moyen pour être grand dans le royaume, dans son royaume. Il faut se rendre serviteur, il faut se rendre esclave. La grandeur donc, l'importance d'un chrétien, l'importance d'un serviteur de Dieu, se mesure à sa disponibilité à servir. Elle se mesure à son esprit de service et non pas au moment auquel il dépose sa candidature. Et Jésus ne demande rien d'autre à ses apôtres qu'il n'a d'abord fait lui-même. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 28. Le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Je ne vous demande rien d'autre que ce que j'ai déjà fait moi-même, ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Un peu plus loin, ou plutôt, il faudrait dire, mais cette question de la grandeur dans le royaume de Dieu, il semble que c'est quelque chose qui est préoccupé les disciples. Peut-être depuis longtemps, peut-être pas. Mais en tout cas, ça les a préoccupés. Par exemple, si nous tournons au chapitre 18, il est écrit que les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est quelque chose qu'ils avaient constamment en tête. Qui est-ce qui sera le plus grand? Alors Jésus appelle un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » L'enseignement, c'est que, une fois de plus, l'importance, le degré d'importance que l'on peut avoir dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à nos capacités intellectuelles, qu'il est nécessaire d'avoir et pour lesquels il faut remercier Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, encore une fois, les places ne se distribuent pas de la même façon que dans la société. C'est le degré d'humilité qui déterminera notre importance, notre niveau dans le royaume de Dieu. Et ici, nous avons lu dans le chapitre 20, c'est ici que j'ai voulu aller un peu trop vite, nous avons lu à un moment donné que les apôtres, ils étaient les 10 autres. Vous allez retrouver le verset, au verset 24, il est écrit, après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les deux frères. Alors on pourrait se demander pourquoi ils étaient indignés. Et je ne veux pas faire un procès d'intention, mais peut-être que eux regrettaient de ne pas avoir été les premiers à faire cette demande. Peut-être que quelqu'un venait de les coiffer sur le poteau, et que la place qu'ils enviaient secrètement dans leur cœur était déjà prise. Alors, on va revenir à l'épisode du jeune homme riche, où le Seigneur a dit qu'il était difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand Pierre a dit « Nous avons tout quitté pour toi, et qu'est-ce qui va arriver avec nous ?» Il leur a dit « Vous avez 12 trônes, il y aura 12 trônes, vous serez assis, vous jugerez. » Mais pour Jacques et Jean, c'était pas assez d'être sur des trônes, sur un trône. Ils voulaient avoir vraiment la meilleure place, le plus près possible du Seigneur. Encore une fois, dans le royaume de Dieu, il ne faut pas oublier que ce que le Seigneur préfère à toute chose, c'est la miséricorde. Parce que le Seigneur préfère la miséricorde au sacrifice. L'orthodoxie, bien sûr, est nécessaire, mais cela ne doit pas nous empêcher de professer la vérité dans la charité, d'exprimer la vérité dans l'amour. Et déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel avait dit au roi Saül désobéissant que l'obéissance aux yeux de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Dans le livre des Proverbes, nous lisons que l'orgueil précède le désastre. On ne sait pas comment maman Salomé se sentait après cet épisode, quand le Seigneur n'a pas su accéder à sa demande. Quand elle a vu que les 12 étaient fâchés contre ses deux fils, elle était venue confiante, gonflée, avec ce qu'elle pensait être une bonne demande. Et maintenant, ce n'est pas écrit non plus, mais la voici peut-être consternée, dans la honte, parce qu'elle vient d'être désapprouvée. Elle voulait le meilleur pour ses fils, mais elle se retrouve dans la honte et dans la désapprobation. Elle voulait le meilleur, mais elle n'a pas su choisir la bonne part, celle qui ne lui serait pas enlevée. Alors, certainement, j'allais dire peut-être, mais certainement que chacun de nous, pour nos enfants, nous avons fait et nous faisons des rêves. Mais quels rêves faisons-nous Ramadan. Il est bon de se souvenir qu'il y a des rêves qui perdent, qui peuvent perdre nos enfants. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Pour nos enfants, essayons de leur donner le goût de l'excellence, parce que l'œuvre de Dieu, elle a besoin de charbonniers, mais elle a besoin aussi de savants, et dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place et pour le charbonnier et pour le savant. Donnons-leur le goût de l'excellence pour que ils puissent, dans leur vie, glorifier le Seigneur, ce qui sera la part qui ne pourra pas leur être enlevée. Et si, parce que ça arrive, et si les rêves que nous avons rêvés pour nos enfants ne se réalisent pas, comment allons-nous réagir? Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous allons être fâchés sur le Seigneur parce que nous avions rêvé des rêves tout à fait légitimes, mais qui ne se sont pas réalisés? Comment allons-nous réaliser? En tout cas, demandons au Seigneur l'aide nécessaire dont nous avons besoin pour qu'il soit glorifié, même dans nos rêves qui ne se sont pas réalisés. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mais jusqu'à présent, c'est bien sombre tout ça. Est-ce que tout cela va se terminer lamentablement comme cela, dans la honte, dans la désobration, dans la désapprobation? Eh bien, grâce à Dieu, gloire à Dieu, il y a la grâce. Nous avons parlé de Maman Salomé. Mais Maman Salomé, où la retrouve-t-on à la fin des évangiles? On la retrouve près de la croix, pas au pied. Il est écrit qu'il y avait des femmes, et il y en a quelques-unes qui sont mentionnées, dont Salomé, dans l'évangile de Marc. Elle était là. Elle regardait de loin avec Jésus. Elle avait rêvé quelque chose, je ne sais pas dire, que le Seigneur ne pouvait pas lui accorder, mais les choses n'en sont pas restées là. Maman Salomé était pas loin de la croix. Et elle n'a pas eu honte de s'afficher pour contempler celui qui était pendu au bois et qui était maudit à ce moment-là, qui était honni. Elle n'a pas eu peur de s'afficher aux côtés du vaincu. C'était une façon de confesser son sauveur. Et le Seigneur a dit que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est devant les cieux. Peut-être ont-elle subi aussi des injures, parce que les amis de Jésus n'ont pas été épargnés. Maintenant, il y a quelque chose, il y a plusieurs choses que nous ne saurons jamais, que nous ne saurons jamais. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne me trompe pas. Mais à quoi est-ce qu'elle a pensé, Maman Salomé, en regardant les trois croix, avec Jésus au milieu et deux autres à côté, quand elle avait demandé que mes fils soient un à ta droite et un à ta gauche? On ne sait pas ce qu'elle a pensé, on ne sait même pas si elle a pensé cela. Et le lendemain de la crucifixion, où retrouve-t-on encore maman Salomé? On la retrouve au point du jour, avec d'autres femmes, portant des aromates pour embaumer celui qu'elles aimaient. Et ils trouvent la tombe vide. C'était une façon, encore une fois, de montrer son attachement au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là? Dans certains évangiles, ce sont des anges. Dans l'évangile de Marc, c'est un jeune homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commissionne les femmes, dont Salomé, il les commissionne pour aller porter, pour aller répandre la nouvelle de la résurrection. Pour maman Salomé, il y a eu, comme un moment d'égarement, une erreur d'appréciation. Mais maintenant, ses yeux se sont ouverts. Elle a vu, à un moment donné, les choses autrement. Elle a compris que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme dans la société. Elle, qui avait mal rêvé pour ses fils, le Seigneur ne l'enferme pas dans son erreur. Et ce que le Seigneur fait pour Salomé, il le fait pour chacun de nous, pour chacun des siens. Il ne les enferme pas dans leur erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ses fils qui, eux, première place, à droite, à gauche? Son fils Jacques, la pauvre, peu de temps après la mort du Seigneur, a été décapité à cause du fait qu'il appartenait à Christ. Certainement qu'il faisait partie de ces gêneurs qui gênaient Hérode, le roi Hérode, et qui l'a fait décapiter. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Oui, il est resté en vie. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il n'a pas pu rester sur place, se reposer, profiter. Il a été exilé sur l'île de Patmos à cause du témoignage, est-il écrit. À cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, est-il écrit dans Apocalypse 1. Le rêve, à un moment donné, c'était d'être l'un à gauche et l'autre à droite. Le rêve ne s'est pas réalisé, mais leur attachement au Maître n'a fait que grandir. Jean a perdu son frère Jacques, mais il n'a pas tout plaqué pour autant. Pourtant, Jacques et Jean, ce n'étaient pas des tendres. Ce n'étaient pas des tendres. Dans Luc 9, il y a l'épisode du village samaritain où Jésus avait envoyé des éclaireurs pour retrouver des places à loger parce que Jésus arrivait avec toute sa troupe. On les avait mal reçus. Et vous savez ce que Jacques et Jean avaient demandé au Seigneur, veux-tu qu'on fasse tomber un ciel, qu'on les consume tous? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. La grâce a transformé maintenant Jacques et Jean qui se sont attachés au Seigneur. La grâce qui les a transformés. Jacques est resté fidèle jusqu'à la mort où il a péri par le glaive et celui qui est appelé fils de tonnerre est devenu l'apôtre de la nuit. Alors est-ce que nous serons fâchés contre le Seigneur si nos rêves ne se réalisent pas? Et pour Zébédée, nous ne savons pas grand-chose à son sujet, je ne pourrais rien vous dire d'autre que ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il ne s'est pas opposé. Et ici aussi, on pourrait broder. La pêcherie Zébédée et fils, avec le bel écriteau. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant que les fils qui devaient reprendre l'entreprise sont partis. On ne sait rien de tout cela. En tout cas, il ne s'est pas opposé au départ de leur fils. Et pour nous, les parents, est-ce que nous saurons éviter d'être des obstacles pour nos enfants sur le chemin de leur consécration au Seigneur? Est-ce que nous saurons leur donner, est-ce que nous saurons leur transmettre le goût du service pour le Seigneur? Ce qui est la seule certitude, ce qui est le seul moyen d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. En tout cas, ce n'est pas par le matraquage que l'on inculque à ses enfants le désir de servir le Seigneur. C'est par notre exemple de consécration, par une vie où la parole s'accorde avec ce que la bouche proclame. Et ici, je voudrais rendre hommage à mes parents. Je ne sais pas exactement quel âge j'avais, peut-être 16 ans, peut-être 17. J'avais voulu, un petit peu connaître mieux la parole de Dieu. J'étais assez attaché à l'évangile de Jean, et je sentais qu'il y avait dans le texte de Jean tellement de choses qui m'échappaient. Après un certain temps, j'ai demandé à mes parents si je pourrais acheter un livre qui explique l'évangile de Jean. Il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Je ne veux pas jouer le vieillard, mais fin des années 40, début des années 50, c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas beaucoup de livres dans les maisons. Nous, on était polonais, on avait encore moins de livres que les autres. On avait quelques livres accommodés, des livres que des copains ou les amis de ma sœur nous prêtaient parfois. Donc, on n'était pas familier avec les livres. Mais enfin, est-ce que je pourrais m'acheter un livre qui explique l'évangile de Jean? Et la réponse de mes parents m'est restée. Ils ont dit, Ernest, tu sais bien, on n'est ni riche ni pauvre, mais pour ça, il y aura toujours assez. C'est quelque chose qui encourage. Et le premier livre que j'ai lu, c'était l'Évangile de Jean, signé par des initiales SP. Plus tard, j'ai su que c'était Samuel Frodon. Et je remercie Dieu pour ce serviteur. Alors voilà. Celui qui prépare les cantiques peut préparer le numéro 112 dans nos recueils. Mais maintenant, je voudrais, pour terminer, que nous lisions encore un verset dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 30. Ce sont aussi des paroles bien connues de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui les connaît ? Vous les connaissez, mais qu'est-ce qui saurait le dire? Voilà que je suis toujours dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste, au moment où on était venu le questionner? Il faut qu'il grandisse, en parlant de Jésus, et que moi je diminue. Dans une autre version, il est dit, lui, Jésus, doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit. C'est ma prière pour moi. C'est ma prière pour vous. Que ce soit aussi votre prière pour vous et que ce soit votre prière pour moi. Pour que dans ma vie, le Seigneur Jésus devienne de plus en plus grand et moi, le moi, devienne de plus en plus petit.